La Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire s'associe à Radio Campus Tours pour donner une fois par mois la parole à un acteur de la recherche en sciences humaines et sociales dans son émission La Méridienne.
Structure fédérative des équipes de recherche en sciences humaines et sociales des universités de Tours et d'Orléans avec le CNRS, la MSH a pour vocation de favoriser les échanges interdisciplinaires et soutenir les projets émergents.
En appui à la recherche, son atelier numérique offre un panel de services pour accompagner chercheurs et doctorants de l'élaboration à la valorisation de leurs projets.
Pour plus d'informations, consultez le site internet www.msh-vdl.fr.
Merci à nos amis de la MSH pour ce jingle de la Méridienne spéciale pour annoncer cette émission en partenariat avec la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. Et notre invité aujourd'hui de cette Méridienne spéciale MSH, c'est Cédric Dédé-Ouanou. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Mélissa.
Alors Cédric Dédé-Ouanou, vous êtes doctorant au laboratoire CITER. Alors Cité, Territoire, Environnement et Société. Voilà, on vous posera plein de questions à ce sujet. Mais avant tout, je salue également Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors Quentin, c'est notre stagiaire de 3e qui sera là toute la semaine à Radio Campus Tours. Alors Cédric Dédé-Ouanou, peut-être pour commencer, est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi CITER, en quoi ça consiste ?
Ok, je vous remercie Mélissa. Et d'abord, je me représente encore Cédric Dédé-Ouanou. Et je pense qu'avant de commencer par peut-être présenter le laboratoire CITER, ça serait peut-être très bien peut-être que je parle un peu de comment je suis arrivé peut-être à CITER. Donc toute l'histoire, cela a commencé après mes études de master. J'avais participé au concours national Défi Autonomie, où les promoteurs de ce concours recherchaient les meilleurs projets sur les questions d'autonomie. Et le thème beaucoup plus, c'était sur la désertification médicale, quelle solution pour demain. Et l'objectif aussi, c'était de prendre en compte l'autonomie sur ce sujet. Donc, j'ai eu l'opportunité de me retrouver, bien sûr, dans les lauréats de ce concours. Et juste après le concours, j'ai décidé de retravailler sur le sujet en doctorat. Et donc, c'est là que j'ai recherché, bien sûr, des laboratoires en France. Donc, finalement, le laboratoire qui cadrait bien sûr avec mathématiques, c'est le laboratoire CITER. Et pourquoi CITER ? CITER, c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs chercheurs, des géographes, des sociologues, des aménagistes, des anthropologues, bien sûr. Et l'objectif principal de... L'objectif scientifique de CITER vise beaucoup plus à l'analyse des dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. Donc cet objectif, ça entre en lien avec le sujet de thèse qui a été élaboré.
Alors ce laboratoire CITER, est-ce qu'il est unique en France ou est-ce qu'il a des équivalents ?
Le laboratoire CITER, je peux dire, est unique en France, mais il y a d'autres laboratoires qui travaillent, qui regroupent des équipes, bien sûr, pluridisciplinaires et qui ont pratiquement des objectifs similaires que CITER. Mais CITER, quand même, est un laboratoire unique en France.
Comment faites-vous pour réunir de nombreuses disciplines ?
D'abord, au CITER, il y a 4 équipes. Moi, je fais partie de l'équipe COST. L'équipe COST, c'est construction sociale et politique des territoires et des trajectoires. Donc je suis membre de l'équipe COST. Et dans cette équipe, déjà pluridisciplinaire, composée beaucoup plus par des sociologues, des anthropologues. Et moi, en tant que géographe à la base, je suis arrivé dans l'équipe, bien sûr, avec une formation complémentaire en sociologie. Donc, dans les autres équipes aussi, l'équipe est beaucoup plus pluridisciplinaire. Et ensemble, quand vous mettez ensemble les quatre équipes, ça rend le laboratoire pluridisciplinaire. Oui.
Alors les autres disciplines hein, de ce laboratoire, moi je triche parce que je les ai sous les yeux, c'est équipe monde arabe et méditerranée, dynamique et action territoriale et environnementale, laboratoire archéologie et territoire. Oui. Comment vous collaborez ensemble ces quatre équipes? Est-ce qu'il y a des projets communs entre les équipes?
Il y a des projets communs, effectivement, entre les équipes. Dès qu'il y a des travaux à faire ensemble, et, on se détache beaucoup plus de nos équipes. On essaie de collaborer, de partager nos connaissances beaucoup plus. Mais étant, moi, étant dans le laboratoire, je n'ai pas encore participé vraiment à de grands projets. Je bosse beaucoup plus sur ma thèse. Mais quand même, au sein de l'équipe, il y a beaucoup plus des projets communs au sein de ce laboratoire.
Alors, c'est juste pour qu'on puisse se figurer comment ça marche, la recherche au sein du laboratoire CITER. Donc, vous nous dites déjà que c'est plusieurs disciplines. Donc, c'est-à-dire que chacun n'est pas arc-bouté sur sa discipline, dans son petit coin. Voilà, y a une idée de transmission de savoir aussi.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a, par exemple, le laboratoire archéologie pour organiser un séminaire sur le patrimoine. Et pour un sociologue qui travaille aussi sur les questions du patrimoine, qui est intéressé, il peut toutefois se déplacer et participer au séminaire organisé par cette équipe. Donc, dans ce laboratoire, on essaie de se compléter. Et si moi aussi, de mon côté, j'ai besoin d'avoir des connaissances au sein des autres équipes, je me rapproche tout simplement des membres des autres équipes et on travaille ensemble. C'est tout.
Alors, peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur l'idée du doctorat. Alors, peut-être que tous nos auditeurs ne savent pas en quoi ça consiste. Donc vous disiez tout à l'heure, c'est après un master, donc un bac plus 5. Donc là, le doctorat, l'idée, c'est on en prend pour 3 ans, au moins. Et voilà, donc quel est un travail très dense, donc qui est peut-être d'une difficulté supérieure à un master. Enfin, comment vous expliqueriez cette démarche à nos auditeurs?
Oui, d'abord, je... Avant d'expliquer cela, je trouve que c'est un parcours très long. Déjà en master, il faut valider le master avec une moyenne acceptable qui vous autorise à vous inscrire en thèse. Donc la sélection se fait déjà à ce niveau. Et donc vous devez beaucoup travailler sur votre mémoire et quand même prouver que vous êtes capable de mener une recherche. Et c'est sur cette base qu'un enseignant... qui a qui a le HDR, accepte vous encadrer. Donc il faut un maître conférence avec HDR. Donc l'HDR, c'est l'habilitation à diriger une recherche. Donc il faut ce grade. Et donc dès qu'il est intéressé par le sujet, il peut accepter de vous encadrer. Mais d'abord, vous devez quand même être capable, vous devez le prouver que vous êtes capable de piloter le projet que vous avez monté ou bien qui est monté par une équipe. Donc le travail, là, il faut être vraiment convaincant. Et c'est ça. Et savoir aussi qu'on s'embarque dans un projet sur 3 ans, ce qui n'est pas facile. Vous pouvez avoir la motivation dès le début, donc dans la première année, et ne plus avoir la motivation dans la deuxième année. Donc et savoir que ce n'est pas une formation d'une année, de 2 années, et ça peut aller jusqu'à 4 ans. Même 5 ans aussi. Donc savoir ce que vous cherchez vraiment, ce que vous envisagez faire plus tard, avant de vous embarquer sur le chemin du doctorat.
Alors en fait, 2 possibilités. Vous nous expliquez que soit on choisit soi-même son sujet, en tout cas on a une idée précise quand même, si possible, de sur quoi on veut travailler, ou alors on peut postuler, entre guillemets, à un sujet qui est déjà proposé par un laboratoire.
Oui. Effectivement... Il y a deux possibilités. Il y a le sujet élaboré par l'étudiant. Il y a le sujet élaboré par l'équipe. Donc, il arrive des fois au sein du laboratoire, le laboratoire décide de mener certaines recherches parce qu'ils ont trouvé un financement. Donc, ils essaient de monter le projet. Et après le montage de ce projet, il faut lancer l'appel, le recrutement de cet étudiant. Donc, ça peut être dans toute la France. Donc, les candidatures peuvent venir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, et la sélection se fait aussi à ce niveau, et c'est le meilleur qui est sélectionné pour piloter le projet sur 3 ans. Bon, le meilleur est celui qui a la motivation. il peut avoir de bonnes notes et ne pas avoir la motivation de travailler sur le sujet. Donc c'est pour cela que je mets la motivation devant. Il faut être motivé pour bosser sur la thématique.
Pour répondre à la thèse, vous allez faire des entretiens, notamment auprès des généralistes. Comment vous faites ces entretiens?
D'accord.
Alors peut-être qu'on peut rappeler juste en quoi consiste votre thèse, parce que la question de Quentin, peut-être nos auditeurs ne se souviennent pas. Est-ce que vous voulez juste rappeler le
titre? Oui, effectivement, Quentin est allé très vite. Et je travaille dans le laboratoire, c'était sur la désertification médicale et le vieillissement. Donc c'est un sujet qui est d'actualité d'ailleurs et qui est brossé par déjà surtout la désertification médicale, est déjà un sujet sur lequel beaucoup d'auteurs en géographie, en aménagement du territoire, en sociologie, ils ont brossé sur la question. Et ça pose un peu le problème de la raréfaction ou le manque de professionnels de santé sur un territoire. Et moi, dans le cadre de ma thèse, moi, je travaille beaucoup plus sur les médecins généralistes. Je travaille, il y a les spécialistes, cette catégorie à part, donc beaucoup plus les médecins généralistes dans les territoires sous-dotés, donc beaucoup plus les milieux ruraux. Donc moi, je travaille sur ce côté. Et c'est vrai, pour bien préciser le sujet, il est peut-être important d'essayer quand même de vous rappeler ce qui a été fait brièvement. Savoir déjà que sur ce côté, il y a une mauvaise répartition. En 2018, il y avait 226 000 médecins en France, dont 3,4 médecins pour 1 000 habitants. Donc il y a une mauvaise répartition, beaucoup plus certains médecins généraux sont concentrés sur certains territoires, c'est bien qu'il en manque sur d'autres territoires. Donc le travail, c'est comment faire pour que les médecins aillent sur ces territoires, c'est tout simplement ça. La réflexion, c'est comment faire pour qu'ils s'intéressent à ces territoires dits sous-dotés. Beaucoup plus. Donc, il y a plusieurs raisons qu'on a évoquées. Il y a le manque d'attractivité du territoire. Il y a le choix de certains médecins aussi de s'installer en ville parce qu'ils ont leur conjoint ou leur conjointe en ville. Donc, ils préfèrent rester dans des territoires où il y a la possibilité d'avoir un emploi pour leur conjoint ou leur conjointe. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Qui justifie l'installation des médecins dans les périphéries, au niveau des périphéries ou en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais le manque d'attractivité du territoire, moi j'ai dans le cadre de ma recherche, j'ai décidé de creuser un peu ce manque d'attractivité des territoires. Donc ce qui pousse les médecins aussi à dire qu'il y a manque d'attractivité des territoires. Et un peu dans mes recherches, j'ai décidé de travailler sur la représentation, les représentations qu'ils ont. Donc, les médecins, les internes, d'abord j'ai commencé par les internes, avant de descendre aux étudiants en sixième année, les représentations qu'ils ont de ces territoires. Puisque c'est une question de représentation, c'est sur cette base qu'ils n'y vont pas, bien sûr. Et je me suis un peu amusé à me rappeler d'une petite histoire. Donc, j'avais rencontré un ami belge qui m'a demandé « Et vous venez de quel pays ?» Donc, en rigolant, je lui ai dit « Je viens du Bénin. » Et il m'a dit « Ah oui, le Bénin, ça me rappelle la Révolution en 1977, au temps du général Mathieu Kérékou. » Bon, je lui ai dit « Bon, tout ça, c'est vieux ça, que actuellement, c'est la démocratie. » Et on a discuté, on a parlé du Rwanda, il m'a parlé du génocide. J'ai dit, oh, mais ça, c'est vieux, ça. Le Rwanda se positionne aujourd'hui comme le pays qui a la capitale la plus propre de l'Afrique, bien sûr. Et en me basant sur cet exemple, je me suis rendu compte quand même qu'il y a pas mal, et moi-même, je fais cette erreur, de me focaliser sur mes représentations antérieures pour prendre certaines décisions. Par exemple, si je vous demande, aimeriez-vous vous rendre au, peut-être en Afrique du Sud pour aller en vacances et vous pouvez me dire, oh non, l'Afrique du Sud, ça me rappelle l'apartheid. Or, le temps de l'apartheid est passé. Donc, j'ai ramené un peu ces exemples un peu sur mon travail et je me suis rendu compte, après avoir échangé avec certains étudiants, pas mal d'étudiants, avec les données que j'ai collectées, je me suis rendu compte que quand ils me parlent de, des représentations qu'ils ont de leur territoire, de ces territoires sous-dotés, ces représentations remontent peut-être il y a 6 ans, il y a 10 ans. Donc, ils vivent beaucoup plus dans le passé et ils se fondent sur ces représentations. En disant, quand j'allais voir ma grand-mère, c'est Limoges, c'est une ville paumée. Et il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y a problème de connectivité à Limoges. Et je leur pose la question, vous êtes allé à Limoges, ça fait combien d'années, par exemple? Vous êtes allé à Limoges, ils me disent, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Or, en 6 ans, en 7 ans, il y a eu des progrès sur ces territoires. Les élus ont mené des projets et qui ont peut-être contribué à l'amélioration de la connectivité. Ça peut être des projets dans divers domaines. Mais tout compte fait, chaque année, chaque territoire essaie d'œuvrer pour avancer, améliorer son attractivité, bien sûr. Donc, je me suis basé sur cette démarche et là, les résultats déjà que j'ai déjà à mon niveau prouvent déjà que cette représentation erronée, c'est une représentation erronée, beaucoup plus. C'est vrai, d'un côté, qu'il y a, sur certains territoires, il y a un repli des services publics. Il y a une fermeture des gares, une fermeture d'école, fermeture de certains centres, bien sûr. Celui qui s'exprime en parlant d'un territoire peut vous dire le territoire est paumé, mais sa représentation, ça date d'il y a 3 ans, 4 ans. Et ce dont il parle est déjà est réglé. Et en partant de là, la représentation, ça m'a permis de comprendre aussi que les élus, ils ont un travail à faire. Le travail qu'ils ont à faire, c'est de faire vraiment un marketing autour de leur territoire. Faire un marketing autour de leur territoire parce que dès que vous décidez de faire le marketing, de parler à chaque fois de ce territoire, et ça permet à ceux qui étaient restés sur ce territoire il y a 3 ans, 4 ans, de savoir qu'il y a une évolution sur ce territoire. Et ça peut permettre à celui qui a 3 choix, par exemple, accepter une offre, aller exercer en tant que médecin généraliste et entre à Limoges ou Toulouse ou Rennes, il peut décider de dire oh non, je repars à Limoges parce que ouais, j'aurais appris que Limoges, c'est une ville qui a beaucoup plus progressé dans ces dernières années. Donc c'est beaucoup plus ça. Donc je travaille en gros sur les questions de représentation.
Voilà, donc l'idée que pour certains futurs médecins, c'est la mort sociale, la campagne, en fait. Ce que je comprends, c'est ça, c'est qu'ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de vie culturelle peut-être, pas forcément de perspective professionnelle, de dire eh ben, on va rester médecin de campagne toute notre vie. Et c'est ça alors qu'il est peut-être le défaut d'attractivité.
Oui, au fait, ce côté, c'est vrai. C'est vrai. Les médecins sont inquiets et ils préfèrent ne pas risquer aller sur ces territoires, surtout. Donc, moi, à travers mes échanges, je me suis rendu compte que quand vous prenez un interne qui est en troisième année, donc troisième année d'internat, ça fait 9 ans d'études, et qui vous parle d'un territoire sous-doté qu'il a connu il y a 9 ans, parfois, dans le discours, vous ne vous rendez pas compte qu'il a même connu le territoire il y a 9 ans. Il vous dit non, je ne suis pas intéressé par ce territoire, tout simplement parce que c'est un territoire très peu attractif. Alors, quand vous lui posez la question, quand est-ce que vous êtes allé sur ce territoire, il te dit quand j'étais en première année. Mais quand il était en première année, ça fait 9 ans. Et en 9 ans, il y a eu des avancées sur ce territoire qu'il n'a pas tenu compte dans son analyse, bien sûr. Donc, je comprends aussi d'un côté, après 9 ans d'études, il préfère rester beaucoup plus dans des milieux aussi confortables pour avoir ses atouts. Mais à travers mes recherches, je comprends aussi qu'en réalité, ce qu'ils disent, ils n'arrivent pas à tenir compte vraiment des avancées qu'il y a eu sur ce territoire. Alors, le gros travail revient aussi aux représentants de ces territoires, aux élus, de faire beaucoup plus un marketing autour de ces territoires, vendre la spécificité de ces territoires pour que ça puisse attirer les médecins.
Est-ce qu'il n'y a pas un changement de mentalité aussi? Parce qu'il y a le cliché du médecin de campagne dévoué en fait à son village qui allait sans compter ses heures et sa fatigue, rencontrer les gens, qui connaissait les familles parce qu'il voyait naître les enfants et les suivait pendant toute leur vie. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu fané comme image du médecin. Peut-être que les jeunes médecins n'ont pas du tout envie d'être ce médecin-là, en fait, qui est totalement dévoué à son travail, qui ne vit que pour ça. Peut-être qu'ils n'ont pas cette envie.
Oui, vous avez raison, tout à fait. Et le médecin de campagne, il travaille plus, il travaille beaucoup d'ailleurs, parce qu'il se retrouve seul en campagne, et il travaille il travaille beaucoup plus que les médecins de ville qui se fissent peut-être des oreilles, lui travaille au-delà. Donc les jeunes médecins qui sont en formation, eux, ils préfèrent beaucoup plus ils préfèrent bien sûr travailler, mais s'occuper aussi de leur vie privée. Donc, ils optent beaucoup plus pour le salariat. Donc, travailler en tant que salarié, soit en maison de santé, soit en centre de santé. Et donc, actuellement, c'est beaucoup plus au niveau du mode d'exercice que ça change. Ils préfèrent moins le libéral, parce que c'est très contraignant. Et ils préfèrent être salariés. Donc, être médecin de campagne en plus, pour eux, c'est que ça leur donne plus de boulot parce que vous pouvez vous retrouver à travailler 40 heures, 42 heures, 48 heures d'ailleurs même. Certains vont jusqu'à 48 heures. Or, actuellement, les jeunes médecins préfèrent travailler peut-être 35 heures. Ils préfèrent 35 heures et utiliser le reste du temps à faire autre chose.
Voilà, mais alors là, dans ce cadre-là, c'est peut-être compliqué, en tout cas pour le moment, d'imaginer des solutions, parce qu'après tout, on peut pas, d'une part, même si on rend le territoire attractif, qu'il y a des gens qui, peut-être des jeunes médecins qui ont envie aussi d'un cadre différent de la ville pour élever leur famille, par exemple, ça peut être un argument, ça, des communes rurales pour faire venir les médecins, de faire valoir que ici, au moins, il y a quand même de la verdure, c'est un cadre agréable pour avoir des enfants, pour les faire grandir à la campagne, mais c'est pas pour ça qu'ils feront plus que 35 heures, même s'il y aurait besoin. Donc c'est... Voilà, on arrive à un changement de société aussi sur l'idée qu'on n'est pas dans une démarche de dévouement ou de choses comme ça. Et du coup, on ne peut pas forcer les gens à s'inscrire dans ce genre de démarche. Donc en fait, comment faire? Est-ce qu'il faudrait embaucher plus de médecins alors qu'il n'y en a déjà pas assez? Comment on peut répondre à ça?
Oui, mais par rapport à ça même, la région, dont la région Saône-Val-de-Loire, a lancé même un projet, un recrutement de 150 médecins à l'horizon 2025, et donc d'ici 2025 bien sûr, donc ils seront répartis dans toute la région, beaucoup plus sur les territoires sous-dotés, et ils vont travailler dans les centres de santé. Et pour la région, c'est une façon de lutter contre le désert médical. Reste à savoir si les médecins vont aussi accepter aller sur ces territoires et travailler. C'est vrai qu'il y a la possibilité, on leur propose aussi un accompagnement. Ils peuvent bénéficier d'un logement, bénéficier aussi d'une crèche. Ils ont beaucoup d'avantages quand même, mais certains peuvent être intéressés par l'offre. D'autres non, je ne serais pas étonné. Mais en gros, avec mes recherches, quand je prends du recul, je me rends compte que c'est beaucoup plus... on a plus besoin de redonner vie à ces territoires. Donc, redonner vie à ces territoires et ça va plus ramener non seulement des médecins et d'autres catégories de personnes sur ces territoires, et par la suite, les médecins vont s'installer. Actuellement, dans sur certains territoires, il y a certains médecins qui vont pour travailler en tant que salariés, d'autres en tant que remplaçants, d'autres ils sont dans les SISMIS, entre ils sont salariés et remplaçants, beaucoup plus. Donc, mais au niveau de ma recherche à moi, donc je me suis rendu compte que ce qu'il faut creuser, c'est comment redonner vie à ces territoires, donc rendre beaucoup plus attractifs ces territoires. Et en rendant plus attractif ces territoires, il y aura des jeunes entrepreneurs qui vont s'installer sur ces territoires. Et il y a d'autres catégories qui vont s'installer. Et ça fera que le médecin ne se retrouvera pas seul sur ces territoires en tant que cadre, mais il verra d'autres catégories. Il y aura beaucoup plus de jeunes aussi qui vont converger sur ces territoires. Donc je vois beaucoup plus la résolution de ce problème. Je trouve qu'il faut redonner vie à ces territoires. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup plus travaillé sur les représentations. Et pas les représentations déjà, je me rends compte que les jeunes médecins en formation ont déjà une représentation erronée de ces territoires.
Ce que vous dites aussi, enfin, dites-moi si c'est juste, c'est qu'en fait, pour rendre ce territoire attractif, donc il faut des opportunités de logement, de choses comme ça, de culture, mais aussi attirer des pairs, en tout cas des gens qui ressemblent, c'est-à-dire il faut réussir à capter des personnes qui ont fait des études supérieures.
Oui.
C'est ça ce que vous dites, en fait, c'est que l'inquiétude peut-être des jeunes médecins, c'est de se dire, mais je vais être dans un endroit où personne ne me ressemble.
D'essayer
de trouver des gens qui ont au moins un niveau d'études équivalent. Donc après, bon, ça peut faire hurler peut-être certains auditeurs d'entendre ça, mais c'est ça que vous mettez en avant.
Ce n'est pas seulement le niveau d'études, mais...
Ils ont une convergence de centres d'intérêt.
Oui, centres d'intérêt, ça peut être toutes sortes de personnes, même ceux qui désirent faire de l'agriculture. Il y a des jeunes qui désirent s'installer. Oui, si le territoire est un peu attractif, ils sont prêts. Il y a d'autres jeunes qui sont prêts à entreprendre dans divers domaines. Il suffit seulement que le territoire les intéresse. Ils seront prêts aussi à s'installer. Et plus ces jeunes s'installent, il y aura vraiment une émergence d'activités beaucoup plus sur ce territoire. Et ça mettra vraiment très à l'aise le médecin qui s'installe. Donc, dès qu'il finit de travailler, il ne se retrouve pas seul dans ce coin, mais beaucoup plus avec d'autres jeunes qui font d'autres activités. Et je pense que c'est pour cela que j'ai beaucoup plus creusé dans cette direction, comment redonner vie à ces territoires, surtout.
Je propose que l'on fasse une première pause musicale pour reprendre notre souffle dans cette méridienne. Et nous allons écouter un peu de jazz. Si vous n'avez rien contre ça, messieurs, on va écouter le Tourniquet. Et c'est un morceau sur l'album Orbit par le trio Orbit avec Sébastien Boisseau. On se retrouve tout de suite après dans la méridienne sur Radio Campus Tours. trio Orbit sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio. Avec moi en studio, donc Cédric Dédé-Wanou et Quentin Rochou, notre stagiaire de 3e. Alors, Cédric Dédé-Wanou, on a parlé longuement des jeunes médecins, mais votre thèse, on dirait, s'intéresse aussi au vieillissement. Alors là, pour le moment, je crois qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Est-ce que vous voulez nous préciser de quoi vous parlez quand vous dites vieillissement?
Ok. Oui, dans le cadre de la thèse, j'aborde aussi le vieillissement, donc le vieillissement démographique, beaucoup plus. Donc j'aborde, les territoires sous-dotés dont on parlait tout à l'heure, sont touchés par le repli des services publics et d'autres par le vieillissement de la population. Donc, dans le cadre de cette thèse aussi, j'essaie de creuser comment les personnes de 65 ans et plus qui vivent sur ces territoires sous-dotés peuvent accéder aux soins, bien sûr, puisque c'est des personnes qui envisagent, qui aimeraient bien quand même rester le plus longtemps possible autonomes et rester chez eux. Et donc, je creuse un peu comment ceux-là, ils arrivent à s'adapter à ce contexte de désertification médicale. Donc ça m'amène aussi sur cette question. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop creusé. J'ai un peu de données que j'ai essayé d'exploiter, mais la recherche n'est pas encore beaucoup plus approfondie. Mais c'est important quand même d'en parler au cours de cette émission pour dire que c'est un sujet de désertification médicale qui prend en compte un territoire sous-doté et touché par le vieillissement de la population.
Voilà, donc est-ce que c'est une thèse, un travail de recherche que vous faites en deux temps, c'est-à-dire un premier temps avec les représentations des médecins ou futurs médecins et un deuxième temps d'étudier le vieillissement, ou alors est-ce que c'est des données préexistantes que vous avez déjà sur le vieillissement?
D'abord, pour ce travail de thèse, il y a trois as de recherche. Donc, le premier as, c'est beaucoup plus sur les représentations. Et le deuxième as, c'est beaucoup plus sur le vieillissement. J'aborde aussi le vieillissement là. Et là, j'ai déjà des données par rapport, des statistiques par rapport à ça. Seulement, qu'il me reste aussi à faire des entretiens pour beaucoup plus creuser le sujet.
Vous allez vous entretenir avec qui? Alors, vous allez chercher des personnes âgées, des professionnels?
Oui, c'est avec des personnes âgées qui viennent surtout prendre des soins dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Parce que dans le cadre de ce travail, je travaille sur les maisons de santé pluridisciplinaires qui sont implantées sur ces territoires sous-dotés. Parce que les maisons de santé pluridisciplinaires ont été beaucoup plus construites pour lutter contre les déserts médicaux.
Et alors, vous, non content d'avoir déjà cette double entrée, vous travaillez sur trois sites de recherche, vous avez trois lieux en fait. Donc, comment vous les avez choisis? Et pourquoi c'était nécessaire dans votre travail de ne pas en choisir qu'un?
Et en fait, j'ai démarré d'abord par une démarche un peu comparative et sur deux régions. Donc j'avais choisi la Nouvelle-Aquitaine, donc un territoire en Haute-Vienne et un autre et les deux autres territoires en région Centre-Val-de-Loire. Donc au fil du temps, je trouvais que le sujet était devenu un peu énorme pour moi, donc être à cheval en deux régions avec des politiques différentes. Donc j'ai supprimé beaucoup le territoire qui est en Haute-Vienne et je me concentre beaucoup plus sur les deux territoires actuellement en région Centre-Val-de-Loire.
Et alors ça veut dire à quoi ça sert d'avoir plusieurs territoires? Parce que c'est nécessaire pour un travail de thèse, c'est pour faire une comparaison, c'est pour...
Oui, si, déjà à partir de deux territoires, c'est beaucoup plus pour faire une comparaison. Parce que là, je veux comparer un territoire sur lequel il y a une maison de santé pluridisciplinaire et un territoire sans maison de santé pluridisciplinaire. bien sûr, touchés par le vieillissement de la population. Donc, les deux territoires sont des territoires sous-dotés, donc c'est classé dans les territoires sous-dotés. L'un possède une maison de santé pluridisciplinaire et l'autre non. Donc, de voir comment l'accès aux soins se passe pour les personnes de 65 ans et plus sur ces deux territoires.
Alors, il y a peut-être aussi une technologie que vous avez rencontrée au cours de vos entretiens, c'est la télémédecine. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe. Peut-être que c'est une solution à ce désert médical, cette désertification.
Oui, tout à fait. La télémédecine, elle se développe. Et par exemple, sur l'un de mes terrains, par exemple, à Ligueuil, la télémédecine est développée là, par exemple. Et ça se développe déjà sur... c'est un territoire et c'est. Je trouve que elle vient quand même. Elle participe à la réduction des territoires beaucoup plus sous-dotés. Donc elle vient beaucoup plus pour quand même aider à la résolution de ce problème de la désertification médicale. Et je pense que depuis 2018, il y a une loi qui autorise. De tous les médecins à s'approprier cet outil, donc à exercer, à pratiquer la télémédecine. Donc c'est depuis 2018. Donc actuellement, les médecins essaient de s'adapter parce que là, tous les médecins ils s'adaptent bien sûr parce qu'ils n'avaient pas reçu une formation par rapport à la télémédecine au cours de leur formation. Donc, pour pouvoir utiliser vraiment cette technologie, c'est encore une autre forme. Il faut s'adapter, donc il faut suivre une petite formation, s'adapter à cela. Donc, c'est ça. Et certains médecins sont intéressés, d'autres non.
Alors, est-ce que ça va pas être le chouette? Donc, je peux rester dans mon cabinet en ville et grâce à la télémédecine, je peux faire des consultations de personnes en milieu rural. Est-ce que ça va pas peut-être sembler la solution miracle pour certains médecins?
Oui, ça peut être une solution miracle, mais vous devez voir, premièrement, je pense que c'est l'une des conditions, vous devez rencontrer déjà une fois le patient. Avant de commencer par faire les consultations par ce moyen-là. Donc,
sinon, ça semble risqué quand même.
Oui, ça semble très risqué. Donc, c'est un patient déjà que vous devez déjà consulter une fois. Et après, vous pouvez suivre sa santé à distance.
Voilà, donc ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne remplacera pas
non.
Une présence médicale sur place.
Non.
Heureusement.
Tout à fait. Ça vient en complément, en fait.
Eh bien, messieurs, je vous propose une très courte pause musicale pour en finir, non pas avec le jugement de Dieu, mais avec cette présentation de votre thèse, Cédric Dédé ou à nous, puisque vous êtes venu ici à Radio Campus pour nous parler aussi d'un ouvrage que vous avez écrit. Voilà, c'est un e-book, il me semble.
Oui.
Ça. Alors, gardons le suspense sur le sujet de ce livre et on en parle tout de suite après cette courte pause musicale dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
Excuse me. I've got to be direct. If I'm wrong, please correct. You're standing on my neck. Look right through me. Say I'm gloomy. Yes, so sue me. Excuse me. I've got to be direct. Thank you.
Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour et nous écoutions Splendora pour les fans de la série Daria. Vous aurez reconnu le générique de cette série. Alors, Cédric Dédéouanou, nous disions avant cette pause musicale que vous êtes également l'auteur d'un ouvrage « Découvrir le monde autrement dans des bourses détour ». Un guide pratique pour les futurs bacheliers, étudiants et doctorants, les chercheurs, les praticiens, les professionnels qui désirent partir en mobilité dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que c'est ce guide ?
Ok. Découvrir le monde autrement, les bourses de tout, c'est un livre. Donc, c'est un livre que j'ai conçu, qui a été lancé le 8 août 2019. Qui nous plonge beaucoup plus dans l'histoire d'une tour imaginaire de 12 niveaux. Une tour imaginaire de 12 niveaux. Et chaque niveau de ce tour représente un mois de l'année. Et le premier niveau de ce tour représente le mois de septembre. Le deuxième niveau, le mois d'octobre, ainsi de suite. Et dans cette tour, vous avez 365 programmes de mobilité qui vous permettent d'aller en mobilité sur les 5 continents que j'ai essayé de répartir par continent. Donc, pour l'Afrique, c'est à part, pour l'Europe, à part, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, ainsi de suite. Et classé par ordre d'ouverture. Donc, les programmes qui s'ouvrent dans le même mois sont ensemble et donc les programmes du mois de janvier sont ensemble, du mois de février sont ensemble. Et cela vous permet de sélectionner déjà d'avance le continent sur lequel vous aimeriez peut-être aller pour un summer school, un fellowship, pour un programme de n'importe quel programme dont vous choisissez déjà par anticipation et vous consulter, disons, les documents qu'il faut peut-être fournir. Et ça vous permet de soumettre votre candidature dans un bon délai. Et donc, c'est beaucoup, je préfère bien expliquer. Les programmes de mobilité, et c'est les programmes que peuvent bénéficier ceux qui sont en formation, donc les nouveaux bacheliers, ceux qui sont en licence, en master, en doctorat, en postdoc, et ceux qui ne sont pas aussi dans le milieu académique, qui aimeraient participer à des conférences, à des séminaires ici. Ce guide, ça leur donne les informations précises, au lieu d'être beaucoup plus sûr Internet et d'être en train de vouloir repérer. Tout est repéré, donc avec le lien. Et je l'ai fait en e-book pour faciliter l'accès direct au site officiel de ces organismes. Bien sûr, au début, on m'avait proposé de faire une version papier. Et je pense que dans les jours à venir, donc dans 2 mois, je vais peut-être lancer la version papier pour que ce soit disponible. Mais la version électronique, elle est disponible aussi parce que là, je tenais à ce que le lien soit à la portée de tout le monde. Donc, dès que vous avez le lien, vous cliquez et vous allez directement sur le site. Ça vous permet d'éviter de tomber sur des sites piratés aussi. Parce que voilà le travail qui a été fait aussi en amont. Et aujourd'hui, il y a pas mal de sites piratés aussi qui proposent des offres dont vous pouvez vous faire aussi arnaquer en voulant postuler à certaines offres. Donc, j'ai fait ce travail où j'ai essayé quand même de sélectionner 365 programmes avec des sites officiels de ces organismes-là. Donc, ça vous permet d'échapper à tous ces... et de candidater dans un bon délai, d'anticiper surtout sur vos candidatures.
Quel message souhaitez-vous faire passer à travers ce sujet aux étudiants ?
Aux étudiants, j'aimerais passer un message un peu de... Je tenais à les rassurer, au fait, parce que pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre ? C'est beaucoup plus la période où... il y avait une augmentation qui était annoncée au niveau des frais de scolarité pour des étudiants étrangers. Et j'avais constaté qu'il y avait un peu une panique générale dans toute la France au niveau des étudiants étrangers venus d'Asie, d'Afrique, d'un peu partout. Donc, les frais de scolarité, je les ai consultés aussi. J'avais trouvé ça, bon, c'était énorme. Mais ça ne me disait pas grand-chose, moi, parce que pour moi, je trouve que dès que vous avez l'information et vous savez que vous pouvez rapidement aller au Canada à travers tel programme, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Donc, je voulais les mettre dans une situation où peu importe les réformes dans un système éducatif, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce qu'il y a quand même... Il y a plusieurs opportunités qui existent dans le monde que vous pouvez saisir et bénéficier aussi des programmes financés. Et deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants aussi qui travaillent aussi à côté pour financer leurs études. Donc, c'est de fait, j'ai écrit ce livre pour des étudiants qui aimeraient aller dans un pays étranger, de savoir que ce n'est pas aussi facile de travailler, d'étudier à la fois. Ça serait très bien de ne pas rater des opportunités de bourse du genre. Donc, j'essaie de rendre le plus accessible. Et troisième chose qui m'a amené à écrire ce livre, je suis allé sur plusieurs sites. J'ai visité le site internet de 50 universités. Et je me suis rendu compte que ces universités ne proposent pas du tout des programmes de bourse à leurs étudiants. Donc, soit c'est... Même s'il propose ça, c'est 5, 2, 3 offres. Et vous constatez vous-même que l'université n'est pas vraiment là pour relayer ce type d'informations. Mais quand même, c'est des universités qui forment pas mal d'étudiants. Donc, les étudiants aujourd'hui sont formés. Ils sont nombreux en sciences humaines et sociales et dans d'autres filières. Mais après, ils recherchent beaucoup plus des débouchés. Je peux faire plus tard ou est-ce que oui. Donc c'est pour pouvoir combler l'attente de tout ce beau monde que j'ai écrit ce livre-là. Et quatrième point pour finir avec ce qui m'a motivé, et je me suis rendu compte aussi avec les difficultés qu'on rencontre au niveau des sciences humaines et sociales, c'est il y a un manque de financement et les financements, on se dit beaucoup plus, il y a plus de financement au niveau des sciences dues, si on peut se permettre de dire. Donc, il y a beaucoup plus de financement de l'autre côté. Et moi, mon niveau, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai eu quand même cette chance de constater que pas mal d'étudiants, peu importe la discipline, recherchent des opportunités pour aller. Et j'aimerais bien quand même, par la suite, m'associer avec d'autres étudiants pour qu'on puisse travailler sur ce livre. Et pourquoi pas l'étendre sur plusieurs continents. Et les fonds qu'on pourra peut-être récolter serviront à financer de petites recherches en sciences humaines et sociales. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a très peu, il y a plus assez de financement au niveau des sciences humaines et sociales. Alors il faut anticiper et commencer pas, en tant que chercheur, commencer pas à rechercher des fonds nous-mêmes. Et savoir que oui, on a la possibilité de trouver les fonds, c'est-à-dire servir les autres disciplines en mettant ce guide à leur disposition, à la disposition de tous les étudiants, peu importe leur filière, parce que c'est un livre qui prend en compte toutes les disciplines, ce n'est pas seulement les sciences humaines et sociales. Donc, s'il y a un grand nombre qui accepte procurer de ce livre, les fonds serviront aussi plus tard à financer des recherches en sciences humaines et sociales. Et parallèlement, donc au lieu d'attendre, d'espérer quand est-ce qu'on aura les fonds, on peut utiliser ce type de fonds pour financer des petites recherches en attendant d'avoir un jour, c'est ça. Et donc voilà un peu tout ce qui m'a amené à écrire ce livre.
Donc c'est un appel à la solidarité internationale entre doctorants.
Pas seulement doctorants... Solidarité internationale pour tous les chercheurs, surtout ceux qui sont en sciences humaines, à appuyer cette initiative-là parce que moi, c'est vrai, je suis l'auteur, mais j'ai beaucoup plus envie de l'étendre en m'associant avec d'autres pour pouvoir étendre le livre dans le monde entier. Pourquoi pas dans toute l'Afrique, en Asie, un peu partout, faire plusieurs versions. Mais après, donc vendre un peu partout dans le monde, donc ça devient l'agenda de l'étudiant. Ça devient l'agenda de l'étudiant et ça lui donne la possibilité de saisir les opportunités à bonne date. Mais les fonds, qu'est-ce qu'on fera de tous ces fonds-là? C'est de financer les recherches nous-mêmes en sciences humaines et sociales parce qu'on se rend compte qu'il y a plus de financement au niveau des sciences dures qu'en sciences humaines et sociales.
Et donc c'est aussi une alternative que vous aviez trouvée, si dans certains pays qui accueillent traditionnellement des étudiants internationaux, la possibilité de faire d'étudier disparaît. Oui. C'est finalement, plutôt que de céder à l'angoisse ou à la peur ou à la déprime, de se dire « c'est pas grave, on va trouver autre chose ».
Oui, oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, vous êtes venu en France, il y a une augmentation. Mais pourquoi vous inquiétez? Il y a des opportunités vers le Canada, il y a des opportunités vers les États-Unis, il y a des opportunités un peu partout. Et oui, c'est pas manque d'informations aussi. Qu'on est angoissé, on se dit « mais qu'est-ce qu'on va devenir avec ?» C'est ça. Et en fait, j'ai quand même fait... J'ai pris 2 ans pour faire sortir ce travail. Et j'ai été motivé pour le faire parce que j'ai beaucoup voyagé, moi aussi. J'ai bénéficié de... J'ai été 6 fois financé aussi par des programmes à l'international. Et le dernier, ça date... c'était un programme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, j'étais parti en Tunis en tant qu'expert du ministère de l'Europe. Et c'est au retour que j'ai décidé de lancer ce livre. Bon, avec mes petits fonds que j'ai ramenés, j'ai décidé de financer mon premier livre avec pour pouvoir aider d'autres personnes à saisir des opportunités. De savoir qu'il y a pas mal d'opportunités qui existent un peu partout. Il y a pas mal de trucs pour quitter l'Europe pour aller en Amérique. Il y a pas mal de trucs pour quitter l'Europe pour aller en Asie, quand vous voulez. Il suffit seulement de savoir que pas tel programme qui existe, vous avez. Et malheureusement, quand j'échange avec beaucoup d'étudiants dans l'Union européenne, beaucoup plus, ils connaissent beaucoup plus le programme Erasmus. Mais en fait, même dans l'Union européenne, il y a d'autres programmes qui sont méconnus du public. Donc... j'ai essayé de faire savoir cela aussi à travers le livre, de savoir que ce n'est pas seulement Erasmus qui existe, il y a d'autres programmes. Et savoir même en France, ici, il y a des fondations, il y a pas mal de fondations aussi qui financent des trucs. Et pour saisir, il suffit seulement d'avoir une information, d'envoyer sa candidature à ces fondations et vous serez financé. Mais c'est pas manque d'information que bon, on se retrouve souvent dans certaines situations, parfois être angoissé, vous savez.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être, je sais pas, peut-être que j'extrapole, mais une envie aussi de pas de revanche sociale, n'exagérons rien, mais de se dire, mais même aux étudiants qui ne sont pas étudiants internationaux, ou lycéens ou professionnels, qui ont peut-être de toute façon pas les moyens financiers de faire des études d'envergure, de se dire mais que aussi ils peuvent espérer en faire. Grâce à toutes ces. De dire que le milieu social d'origine ne devrait pas en tout cas être une limite aux études.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'abord, je reviens un peu en arrière, puis je ne m'adresse pas seulement aux étudiants internationaux. Même les étudiants français qui sont ici, qui sont sur place, et ils peuvent quand même savoir que oui, je n'ai pas assez de moyens pour aller au Canada. Mais non, mais. On se trompe, c'est faux. Il y a des opportunités pour aller au Canada. Il suffit seulement de vous adresser à des organismes et vous serez financé. Même sans passer par Erasmus, il y a d'autres programmes pour vous rendre au Canada aussi facilement. Donc, c'est juste que c'est les étudiants internationaux qui m'ont réveillé de mon sommeil. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de lancer le livre. Sinon, c'est adressé à tout le monde, à tout public. Même aux étudiants français qui aimeraient aller en Chine, il y a des programmes de la France vers la Chine, de la France vers le Japon, de savoir ça. Et donc, ce n'est pas un livre aussi pour des étudiants qui quittent les pays du Sud. Non, c'est pour tout le monde. Vous pouvez quitter les pays du Nord, aller un peu partout, aller dans d'autres pays du Nord, quitter un pays du Sud pour aller vers un pays du Sud, ou quitter un pays du Sud pour aller vers. C'est pour faciliter la mobilité. Et savoir que vous avez pas mal de moyens pour aller tous ces continents. Donc, 365 programmes. C'est énorme sur toute l'année. Et pourquoi 365 programmes? Parce que je n'ai pas expliqué. Parce qu'il y a 365 jours. Je suppose 365 jours dans l'année.
Voilà, donc on peut postuler un programme tous les jours. Pour finir, est-ce qu'on a les rêves qu'on mérite, Cédric Dédé Ouanou? On peut dire ça, on a les rêves qu'on mérite.
Oui, vous avez, si, dès que vous engagez sur ce chemin, vous avez les rêves que vous méritez, bien sûr.
Eh bien, méditez là-dessus, chers auditeurs. Donc, je rappelle une dernière fois, Cédric Dédé Ouanou, vous êtes doctorant au laboratoire CITER. On parlait de votre thèse en première partie de cette émission, désertification médicale et vieillissement, études comparées de trois territoires ruraux situés en Haute-Vienne et Indre-et-Loire. Et pour finir, vous venez de nous présenter Découvrir le monde autrement, dans des bourses Détour, un guide pratique pour toutes les personnes qui sont intéressées par la mobilité internationale. C'est un e-book que l'on peut acheter sur des sites marchands dont on ne mentionnera pas le nom, mais que nos auditeurs trouveront aisément. Je vous souhaite une dernière chose.
J'aimerais ajouter au niveau de la présentation, je suis également aussi chargé de cours au département de sociologie.
Voilà. Oui. Et alors pour finir, c'est quoi ce cours?
Je fais les TD, initiation à la recherche en sciences sociales, initiation à la démographie, c'est le deuxième cours, et mathématiques et statistiques. Donc j'ai trois cours, j'ai trois TD que je fais.
Voilà, et tout ça, c'est à retrouver sur LinkedIn, je suis sûre.
D'accord.
Merci à vous, Cédric Dédé Ouanou, et merci Quentin d'avoir participé à cette émission.